gardez les yeux ouverts, MDM s'occupe de vos oreilles.
Bonjour Rod Pépin.
Bonjour.
Merci beaucoup de prendre un peu de temps pour nous pendant vos vacances. Ce film, il a l'air de prendre quand même pas mal de place dans votre vie. Est-ce que vous pouvez nous en parler de l'impact que ça a eu à la vie sur vous et sur votre vie de femme en dehors de la réalisation, je veux dire.
Bonjour. C'est vrai que je n'aurais pas pensé que ça serait aussi. Grosso modo, on a commencé le festival de l'USAS, donc vraiment ce festival de documentaire a été le point de départ de la tournée avec À la vie. Et grosso modo, on a eu un autre festival qui s'appelait le We Too Festival à Paris, qui était tout début septembre. Et à partir de mi-septembre, en fait, on a commencé à tourner. Et c'est vrai qu'on arrive presque en novembre. Et ça a été quasiment du 7 sur 7. Parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose qui change. C'est que, moi, en tout cas, en tant que réalisatrice, c'est vrai que j'ai accepté quelque part. Je voulais à tout prix que mon film puisse être vu et entendu, que les paroles, que cette fameuse Chantal Birman soit découverte, que le tabou du postpartum soit levé, etc. Et c'est vrai que du coup, j'ai aussi, il y a Instagram qui est arrivé, parce que voilà, c'est un outil qui a beaucoup aidé le film avec les différentes communautés. Et c'est vrai que c'est un peu débordant, parce que finalement, c'est un peu 7 sur 7. Puis, comme disait une copine à moi qui m'a fait beaucoup rire, en se moquant de moi, elle m'a dit, on ne naît pas mère, on le devient, mais on ne naît pas community manager, on le devient. Donc, je suis devenue à la fois, en même temps que réalisatrice, j'ai l'impression community manager, ce qui est un peu étonnant et un peu, ce qui est pas mon boulot, à vrai dire. Mais c'est tout ce qui est passionnel, finalement, c'est un peu comme ça, ça nous déborde. Je vois en tout cas que le film, et puis il faut dire que le film, on a une boîte de distribution qui est formidable, qui s'appelle Tandem, avec trois filles à la programmation qui se battent, Carla, Mirana et Margot. En attendant, il n'y a pas non plus des moyens comme un James Bond, bien évidemment, vous en doutez. Donc, nous, on travaille beaucoup de notre côté à ce que c'est que l'info circule. Et donc, plus on repartage nous-mêmes les informations qui sont repartagées, plus je crois que c'est une question d'algorithme, plus ça fonctionne aussi. Donc, il faut faire un peu attention à cette course-là. Mais en même temps, c'est le moyen pour qu'il puisse exister, puisque aujourd'hui, le documentaire, les salles, il est programmé donc dans 34 salles en France en première semaine. Il a gardé toutes ces salles, ce qui est un miracle. Mais avec les 450 films qui étaient à la porte, c'était un enfer en fait. Le cinéma se porte à vrai dire pas très bien, même pas bien, surtout les salles, les gens ont beaucoup de mal à revenir en salle. Donc les films qui sont choisis, même par les cinémas d'arrêt d'essai où on est programmé principalement, pour eux, il y en a plein d'autres, des cinémas, il y en a plein d'autres, des films, d'auteurs qui sortent. Moi, c'est mon premier film. Donc, c'était aussi un vrai pari, presque un acte militant. Donc, du coup, ça a été beaucoup d'énergie pour leur montrer. Je sais qu'ils ont aussi, vu les réseaux, et que ça leur a donné envie en se disant, il y a une vraie demande, en fait. Les gens ont envie de le voir. Et d'ailleurs, les gens contactent eux-mêmes les cinémas pour organiser des séances, pour nous faire venir. Ça, je crois que c'est assez inédit. Et c'est juste extraordinaire, parce que les gens s'emparent du film et s'emparent du message, et je crois que ça leur donne de l'énergie. Donc c'était tout ce que je voulais, et ça, c'est juste extraordinaire.
Les gens étaient au rendez-vous, donc dans les salles, quand vous y étiez, vous, avec Chantal Birman aussi?
Ouais, alors bien sûr, ça a été crescendo, ça n'a pas été, on n'a pas été plein dans toutes les séances, on a été plein, au fur et à mesure. On a quand même bien démarré dans les avant-premières, justement déjà avec ce bouche à oreille qui était dû, notamment à Instagram, etc. Avant qu'il y ait la presse, puisque la presse généraliste s'en est emparée, on a eu de la chance d'avoir à peu près presque tout, Mais au départ, la presse n'était pas sortie encore. Donc on a. Mais après, ça reste des chiffres qui sont quand même petits, parce que c'est 34 salles et que parfois dans certaines salles, il n'y a qu'une séance jour. Donc là, pour être tout à fait transparente, en première semaine, on a fait un peu plus de 10 000 spectateurs, ce qui est bien, ce qui est très bien au vu du contexte. Mais il y a quelques années, on aurait fait 30. Voilà, ça c'est sûr. Mais voilà, mais par contre, ce qui est super, c'est que graduellement, le film, comment expliquer, augmente tous les jours, ce qui est normalement l'inverse, en fait. C'est-à-dire que normalement, c'est programmé, puis après, bon, voilà, la première semaine, ouais. ça démarre bien, et généralement, ça baisse. Nous, c'est plutôt l'inverse qu'on observe, donc ça c'est génial. Et pour reboucler sur la première question, bah du coup, c'est vrai que j'ai pas eu le temps de m'occuper trop de mes enfants, et que voilà, j'ai une grande qui est rentrée en troisième cette année, une petite en CP, donc c'était des âges, voilà, on a déménagé aussi en plus d'appartements, puisqu'on devait s'installer dans un ancien ranch dans le sud de la France pour que j'y monte aussi des choses et que j'écrive mes prochains films. Et puis finalement, voilà, on a vu la tournée où les dates se remplissaient de jour en jour, et on s'est rendu compte que ça allait être compliqué de vivre trop à distance de Paris cette année-là. Donc voilà, donc les filles ont dû se réadapter et je suis très absente pour les épauler. Donc là, les vacances sont un peu sportives avec ma petite de 6 ans qui clairement a un peu pâti de cette absence, quoi. Paradoxalement, finalement, j'ai jamais été aussi mauvaise mère, si absente que depuis que je mets en lumière la maternité, quoi.
L'idée de ce documentaire, elle arrive quand vous êtes encore à la maison des maternelles. C'est là-bas que vous rencontrez justement la sage-femme Chantal Birman.
Bien sûr.
Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette rencontre et de ce qui fait que vous êtes dit, tiens, je vais faire un documentaire, il faut que je fasse ça maintenant.
Ouais, alors effectivement, je venais de rentrer à la maison des maternelles, donc et c'est vrai que ma rédactrice à ce moment-là me dit, écoute, Aude appelle Chantal Birman, tu vas voir, c'est une grande dame, pour lui proposer de venir cette année sur le plateau. Tu demandes ce dont elle a envie de parler, parmi tous les sujets qu'il y a autour de la maternité dans la maison des maternelles. Et puis voilà, effectivement, en deux secondes, j'ai compris que j'avais affaire à, effectivement, au-delà d'une grande dame, à une icône planquée, finalement. Pour moi, j'avais l'impression que je venais de découvrir une femme qui avait des idées si brillantes, si intéressantes. J'avais l'impression que toute ma génération, et même celle d'avant et celle d'après, quelque part, était en attente de ce qu'elle était en train de me raconter, puisqu'elle mettait des mots d'une clarté, d'une brillance sur à la fois la maternité, qu'elle sortait justement de cette zone rose et bleue, et du côté finalement heureux, l'image d'Épinal qui était quand même très véhiculée quand même jusque là globalement, à la fois elle avait une parole, une analyse, une expérience autour de ces questions de la grossesse, de l'accouchement et de la prénaissance, donc du postpartum, qui était d'une justesse extraordinaire. Et en plus, c'était une grande militante qui était par ailleurs quelqu'un qui, attendez, ça cloque très fort, je suis désolée, qui n'avait pas vraiment été révélée, puisque malgré tout elle avait, j'ai vite compris qu'elle avait modifié la loi Veil, etc., qu'elle avait fait passer notre possibilité d'avorter de 10 à 12 semaines, qu'elle avait amené l'idée de l'adulte référent. Et je me suis dit, mais comment ça se fait qu'une femme avec des idées, une intelligence, un parcours comme ça n'est pas plus d'amplitude, en fait, ne soit pas sortie du cadre finalement de la maison des maternelles, du cadre elle avait écrit un livre, Au monde, ce qu'accoucher veut dire, que je conseille à tous vos auditeurs, qui est superbe, mais voilà, elle n'était pas connue réellement du grand public. Bon, alors ça, c'était le premier truc. Et puis ensuite, moi, évidemment, ayant été maman, quand j'ai été mère, j'ai découvert, la confusion des sentiments, et comme le dit très justement Léna Weisman, c'est-à-dire ce sublime qui côtoie le sublime qui côtoie l'aliénation, en fait, et qui c'est pas l'un après l'autre, c'est un peu les deux superposés, la maternité. Je me suis dit, mais comment ça se fait que on ne parle pas plus de ce moment-là? Comment ça se fait qu'on se prévient pas plus entre femmes? Comment ça se fait que c'est encore si tabou de se parler de cette confusion des sentiments qui suit la naissance d'un enfant? Et donc voilà, entre moi, le sentiment que j'avais, plus la rencontre de cette femme, effectivement, je me suis dit, voilà, il y a un vrai film à faire. Après je l'ai su dans le 93, je me suis rendu compte que ce que moi j'avais vécu à titre personnel, toutes les femmes le partageaient, et vraiment tout ethnie confondue. Alors avec plus ou moins d'aisance, avec plus ou moins de drame, avec plus ou moins de joie. Et voilà, les curseurs sont différents selon les personnes, les origines, les classes sociales, etc. Mais que globalement, il y avait un sentiment de vertige et aussi d'abandon de la société dans ce moment-là, qui était vraiment partagé. Et donc voilà, je me suis dit qu'effectivement, il y avait un vrai film à faire. Et puis voilà, de cinéma et pour différentes raisons.
Le film, il arrive, vous venez d'évoquer Ilana Weisman, elle fait partie des femmes qui sont dans cette vague un petit peu, qui veut repolitiser ces notions de maternité, de postpartum. Pourquoi, selon vous, cette vague de repolitisation de ces actes-là arrive maintenant?
Alors ça, c'est intéressant. Pourquoi elle arrive maintenant? Je pense que c'est vraiment MeToo, si vous voulez, pour moi. Après, voilà, moi, je suis... Alors, attention, voilà. Ilana est sociologue, voilà, elle, c'est son travail. Moi, je suis réalisatrice. Je ne donne que ma vision des choses. Hein. Vous me posez la question, donc je vous réponds. Selon moi, c'est qu'il y a eu effectivement une libération de la parole autour des corps, et notamment des violences aussi qui ont été faites au corps et aux abus sexuels. Comme voilà, ce qu'a été la vague MeToo. Et donc ça a ouvert toute une vague à un tas de comptes, notamment Instagram, etc., qui ont dit que voilà, tous les corps avaient le droit d'être représentés, que justement, même les défauts du corps, ce qu'on appelait des défauts, des cicatrices, des boutons, etc., avaient le droit d'exister sur la place publique et dans l'imaginaire collectif et représentatif, en tout cas. Et donc, finalement, la maternité et le hashtag mon postpartum, je vous le rappelle, il est né de cette histoire, d'une pub qui a été censurée pendant le Super Bowl aux États-Unis, qui montrait une femme avec une culotte, justement, qu'on donne pour la naissance, ces espèces de filets un peu afro, là, des culottes, pour les pertes de sang après la grossesse. Et donc, cette pub a été censurée. Et donc, justement, ce qui était tu avant, voilà, on était sorti des diktats, en fait, si vous voulez, pour moi. Le monde s'était rendu compte qu'il fallait sortir des normes et qu'on avait le droit de montrer, et que c'était même important de montrer tout ce qui n'était pas forcément, tout ce qui ne collait pas à l'image parfaite de la femme. Et donc, pour moi, c'est allé avec cette vague-là. Et je pense aussi qu'il y a eu un regain du féminisme, de la pensée féministe, et finalement, la maternité était la seule zone un peu non explorée des féministes. Et donc, restait une zone à prendre. D'ailleurs, à ce sujet, il y a beaucoup, il y a aussi un business qui se crée autour de ça, quoi. C'est-à-dire que voilà, c'est un féminisme, voilà, celui de la maternité. Vous voyez le nombre de comptes autour de ce truc-là sur Instagram, c'est délirant, quoi. Donc voilà, il y a un vrai phénomène de société autour de ça. Et en fait, à mon avis, ce qui a pu amener ça, c'est que avant, pour militer, c'est vrai que c'était aussi beaucoup dans le cadre d'associations. Aujourd'hui, il y a une nouvelle forme de militantisme qui sont justement par les réseaux sociaux, par les photos, par le fait d'écrire des textes sur les réseaux, de poser des questions à la société par ce biais-là. Et ça, tout le monde peut s'en emparer. Et même quand justement on a un peu un bébé, c'est-à-dire que à un moment donné, enfin autrefois, militer et être mère, c'était compliqué parce que les femmes avaient la charge quand même aussi des enfants, et elles travaillaient, elles avaient la charge des enfants. Donc militer en plus, c'était très compliqué. Donc les mères sont arrivées tard sur le dossier du militantisme aussi, voilà, par manque de temps, d'espace possible, tout simplement. Aujourd'hui, le numérique, je pense, a un peu aboli ces frontières-là et a permis à chacun et à chacune de pouvoir être militant à sa manière, avec son propre regard. Et ça aussi, ça a décloisonné ça et ça a décomplexé aussi. Ça a amené cette nouvelle forme de militantisme en disant, finalement, on peut tous amener quelque chose, on a tous droit de parler. Et c'est vrai que en l'occurrence, je reparle d'Instagram, mais on peut avoir un petit, et par contre faire des posts, écrire, voilà, c'est pas pareil que d'aller, voilà, à des rendez-vous avec des syndicats, etc. Voilà, donc c'est aussi une accessibilité et une parole plus facilement visible, à mon avis, voilà, qui a fait tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que je suis claire ou pas du tout?
Non, mais si, en plus, je partage complètement cette idée de un peu la libération du militantisme aussi par les réseaux sociaux, même si ça prend un temps considérable.
Bien sûr, ça prend aussi un temps considérable, bien sûr. Ouais. Mais c'est pas tout à fait de la même manière, quoi.
Non, ouais. Et puis ça donne un accès quand même phénoménal à tout un tas de connaissances et de contenus.
Bien sûr. Et puis c'est vrai que voilà, c'est-à-dire que on n'est pas non plus obligé, même si c'est des communautés, ça reste des communautés virtuelles. C'est pas comme quand on est dans une association, il y a des rendez-vous, des AG, des machins, des trucs où il faut se déplacer concrètement, aussi supporter les gens finalement avec lesquels on va militer. Voilà, là c'est encore différent quoi. Et quelque part, c'est aussi plus égocentrique comme l'est notre époque d'une certaine manière. C'est l'expression de soi à travers une communauté. Et ça, c'est vrai que ça a des mauvais côtés, mais ça a aussi des bons, celui-là en l'occurrence.
Dans les troubles, avec des guillemets, hein, parce que je ne sais pas vraiment quel terme utiliser, du postpartum que vous évoquez dans le film notamment, il y a les suicides des jeunes mères. Et Chantal Guermand disait, notamment sur le plateau de Mediapart, qu'elle n'avait pas eu connaissance de ces chiffres, qu'on ne lui avait pas appris quand elle était étudiante pour devenir sage-femme, justement, et que ben ça, c'est le tabou du tabou, en fait. Le postpartum, on commence à en parler absolument. Un petit peu, mais ce suicide de la jeune mère, ça reste encore un non-dit considérable.
Bah, on a été, enfin, les premiers à le révéler avec le film quelque part, réellement au grand public en tout cas, à le dire, à le poser sur la table. Oui, c'est hallucinant quoi, et c'est aussi pour ça qu'il était nécessaire de faire un film comme celui-ci, c'est-à-dire que finalement le manque de moyens mis dans l'accompagnement conjugué à l'éclatement des cellules familiales, à l'automisation de la cellule familiale, puisque voilà, on ne vit plus aujourd'hui en règle générale avec sa mère, avec sa grand-mère, avec ses tantes, etc. Plus, comme je dis souvent, l'espèce d'idée qu'aujourd'hui on est quand même dans une société qui est quand même très portée sur l'immédiateté, c'est-à-dire que on prévoit tout, les choses doivent se résoudre immédiatement. Justement, la vitesse de connexion Internet, les informations qu'on a directement participent complètement à ça, font qu'on est dans un très mauvais cocktail à mon sens, et font que voilà, évidemment, moi je ne pose pas les pouvoirs publics comme unique responsable, et d'ailleurs pas ceux de ce gouvernement-là particulièrement, puisque c'est le seul quand même qui s'attaque aux 1000 jours, justement quand même qui porte une attention très particulière à la naissance et à l'après-naissance, même si de mon point de vue malheureusement, on va rencontrer Adrien Taquet avec Chantal Yves, on lui fait une projection, et il m'a écrit d'ailleurs sur Instagram, c'est ça qui est assez rigolo, pour me dire qu'il veut absolument voir le film et qu'on discute. Donc voilà, il y a quand même des gens, des ministres, voilà, qui vous écrivent pour dire voilà, ça m'intéresse, j'ai envie qu'on en discute. Ça, c'est quand même extraordinaire, c'est quand même pas si courant. Cette politique en termes de manque d'argent mis dans la maternité n'est pas seulement du tout une politique macronienne. C'est une politique qui a glissé sur un tas de gouvernements avant, et dont lui aussi récolte les fruits, quoi. Ça, c'est clair. Donc, si vous voulez, ce manque d'argent, ce manque de pensée autour de la maternité et de la prénaissance, c'est-à-dire d'avoir complètement médicalisé ce moment-là au lieu de le prendre comme il est physiologique, et du coup de l'avoir pathologisé, donc de l'avoir fait rentrer aussi sous le diktat médical, avec ce que ça incombe comme hiérarchisation, et que nous les femmes finalement on arrive en bout de course là-dedans. Et à mon avis, c'est multifactoriel, voilà, et on arrive effectivement à des femmes qui se sentent extrêmement seules, parce que justement leur conjoint, en plus que de leur famille, n'est pas là, il n'y a pas d'accompagnement suffisamment proposé, il y a en même temps une multitude d'informations, on a l'impression qu'on ne sait plus où on en est. Ben, ça amène aujourd'hui tous ces facteurs à, effectivement, le suicide étant la première au coude à coude à 0,2% cause de mortalité, enfin, c'est la deuxième cause à 0,2% a priori, avec les maladies cardiovasculaires extrêmement mal diagnostiquées aussi chez la femme. Donc c'est effectivement très très grave, et alors maintenant ils ont des cours apparemment, de santé publique, comme le dit Hortense, un des personnages du film, où c'est dit, mais c'est dit, voilà. Ah bon, bah alors ça serait ça. Sauf que voilà, du coup, il est temps de passer du dire aux actes, et d'essayer de faire changer les choses, en proposant, au moins en revisitant l'accompagnement postnatal, et même, je dirais même, l'accompagnement des familles dans leur globalité. Ça c'est certain, c'est une urgence.
Hortense, dans le film, c'est presque celle qui joue votre rôle, qui posait les questions que vous aviez envie de poser, est donc stagiaire, sage-femme stagiaire,
Suis
Chantal Birman. Mm-hmm. Ce film, il arrive aussi à Pépin, un moment où des stagiaires font grève, des grèves à répétition pour dénoncer leurs conditions de travail qui sont catastrophiques.
Les sages-femmes, vous voulez dire
Les sages-femmes, oui, pardon, j'ai dit quoi?
Les stagiaires, c'est pas grave.
Ah oui, oui, très bien.
On n'a pas vu
Donc, des conditions de travail catastrophiques. Elles expliquent qu'elles sont maltraitantes malgré elles avec leurs patientes.
Bien sûr.
Vous avez envie aussi que ce film puisse leur servir d'étendard?
Ah, complètement. Alors moi, je n'ai pas cette prétention, mais en même temps, j'espère que ça peut leur servir de base, de socle, pour qu'elles puissent effectivement revendiquer des choses. Moi, je suis absolument scandalisée de ce qui se passe actuellement. Voilà, faut savoir que 7 étudiantes sages-femmes sur 10, donc comme le personnage d'Hortense, sont en dépression. Voilà, c'est les derniers chiffres. Donc, c'est 7 étudiantes sur 10 en dépression, là, ça va plus du tout. Donc, effectivement, les rythmes sont catastrophiques. Et c'est pour ça aussi que le fait que, voilà, les gens, que les sages-femmes puissent se servir de mon film, c'est plus que, voilà, c'est quelqu'un de la société civile. Moi, je suis pas une sage-femme. Je suis quelqu'un de la société civile. Je suis une femme comme vous, voilà, comme vous. Et j'ai décidé de m'emparer de ce sujet parce que, justement, j'estimais que, il était temps d'arrêter de maltraiter cette naissance. Les gens qui nous aidaient, enfin qui nous accompagnaient à mettre au monde, voilà, qu'il était temps que ça s'arrête. Et je crois qu'on a notre pierre à l'édifice. Enfin, voilà, c'est pas des revendications corporatistes qu'elles ont. C'est nos revendications à nous. C'est pour nous aider. Et donc en ça, c'est ça que je trouve quelque part bien pour elles, parce que ça montre que la société civile s'empare et de leur sujet, s'empare de leur souffrance, de leur douleur, et est complètement fait corps avec elle. Je ne saisis pas comment des moyens ne sont pas mis en urgence. Alors évidemment, il y a peu de moyens. Moi, je suis pas dans les arcanes, de Bercy et du ministère de la santé, etc. Je sais que les choses se font pas en un claquement de doigts, mais en tout cas, il est urgent de prioriser ça pour les années à venir. Ça, c'est sûr, parce que le système ne tiendra pas. Il y a une fuite réelle. Il y a quand même, là, je discute avec plein de sages-femmes, elles me disent, mais moi, je me suis barrée de l'hôpital public. Je veux dire, à un moment, il va y avoir qui pour nous accoucher? Donc, là, j'ai reçu une pétition, je vais probablement signer une pétition, mais après, voilà, les pétitions, c'est bien, les manifestations, c'est bien, il va falloir peut-être passer la vitesse supérieure. Moi, je vais me renseigner pour voir comment on peut faire pour que, voilà, le gouvernement vraiment s'empare de ce sujet. On élit des gens, c'est pour quand même qu'ils nous représentent, et qui s'attaquent aux sujets fondamentaux que sur la santé, dans toutes ces acceptions, l'éducation, on le sait, voilà, c'est quand même les deux priorités d'une société si on veut qu'elle aille mieux. Donc, bien sûr que j'espère que, en tout cas, ce film peut leur servir pour dire, voilà, vous voyez par A plus B que ce qu'on dit est vrai, quoi. S'il fallait encore le prouver, on peut pas mettre des responsabilités telles sur une telle durée sur des femmes, ça va craquer, hein, c'est clair. Hein.
Ce qu'elle revendique aujourd'hui des sages-femmes, c'est une femme, une sage-femme.
Voilà.
Et on est loin du compte partout.
Complètement. Oui, on est loin du compte partout. Et c'est pour ça que là, on le revendique, on le dit. Maintenant, il faut qu'on nous écoute. En fait, ça commence à bien faire. Voilà, c'est du béaba, c'est du bon sens. Je veux dire, il n'y a pas à discuter en vrai. Vu là où on en est arrivé, ça devient nécessaire. Bon là, et là, on est très loin effectivement d'une sage-femme. Enfin, voilà, les lits se ferment, elles accouchent 6 à 8 personnes. En même temps, en fait, ils attendent. Je sais pas. Ils attendent qu'il y ait vraiment des accidents graves qui se passent. Je sais pas quoi. Mais à un moment, c'est ce qui va se passer, c'est sûr, c'est certain, c'est certain.
Dans le documentaire, on voit aussi des papas.
Oui.
La loi sur les congés pour les coparents qui a été votée dernièrement, qui allonge le congé paternité. Ce rôle des coparents, pour vous, dans la maternité, il doit ressembler à quoi, Pépin?
Alors, j'ai pas, encore une fois, à dire à quoi les choses doivent ressembler. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le coparent, pour moi, doit avoir la stricte égalité en termes de congés, voilà, de coparent. Je veux dire, encore une fois, on est en 2021, on fait un enfant à deux, on s'en occupe à deux, quoi. Point barre. À un moment, je crois qu'il y a pas, enfin, c'est du bon sens, c'est de la logique. Je ne vois même pas comment c'est possible qu'on en soit arrivé à autrement que ça. En fait, je parle, j'ai l'impression de raconter des banalités, en fait, parce que je trouve ça dingue de devoir revendiquer en 2021, qu'un enfant qui se fait à deux doive se supporter à deux, s'élever à deux dans les premiers mois. Je veux dire, je vois pas ce qu'il y a de révolutionnaire dans ma demande. Elle est juste naturelle et normale. Voilà, point barre. Donc ça rééquilibrait aussi, comme je le dis souvent, déjà les salaires, parce que les employeurs, quand ils savent que ce soit un homme, une femme, qu'il va aller en congé maternité de la même manière, parce que c'est souvent là que se jouent les différenciations en termes de salaire. Déjà, ça réglerait en tout cas en partie ce problème-là. Et puis, un homme ou un coparent, l'autre femme ou l'autre homme du couple, a le droit de la même manière de rencontrer son enfant. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? De la même manière qu'il a le droit d'avoir une vraie place à l'hôpital. Aujourd'hui, les coparents sont foutus dehors. Et on laisse des femmes qui sont quand même exsangues de fatigue après avoir eu des contractions pendant X temps s'occuper. On vous fout au minimum, au maximum, un espèce de siège à côté pour le coparent avec un truc pour les pieds pour qu'il puisse se pseudo s'allonger. Il a même pas le droit à verre d'eau. Moi, j'étais au Bluet, j'ai accouché au Bluet pour ma deuxième fille qui est soi-disant, waouh, les Bluets. Mais que dalle. Les Bluets, c'était pareil. C'était le père de ma fille avait, voilà, un espèce de pauvre fauteuil qu'on payait en plus. Il avait pas le droit à un verre d'eau parce que, évidemment, les femmes n'avaient déjà pas le temps de m'enfiler un. Hein, alors, comment voulez-vous qu'elles enfilent un à mon mari? C'était impossible. Donc voilà. Et c'est surtout qu'ils sont assez peu considérés à l'hôpital. Moi, ma colère, elle est partie de ça. Quand j'ai failli perdre ma fille à mon premier accouchement, Lou, on a dit, elle était en train de mourir littéralement. Ils étaient de la réanimer, de l'intuber, etc. On m'a enlevé son petit bracelet. On m'a dit, madame, vous montez dans votre chambre. On viendra vous chercher quand on pourra parce qu'on n'a pas le personnel suffisant. C'était il y a presque 15 ans. Et monsieur, vous rentrez chez vous, il n'y a pas de lit pour vous. Ma fille était entre la vie et la mort. Mais de quoi on parle là? Voilà, c'est-à-dire que c'est une cruauté absolue pour les gens. Donc le père de ma fille était sidéré, quoi. Il s'est dit, attends, ma fille est en train de mourir, on me renvoie chez moi. Voilà. Donc donc le coparent et effectivement, si on veut ensuite qu'il prenne sa place et si on veut que les pères, on parle souvent des pères, soient plus impliqués, déjà faut-il qu'on leur laisse la place de s'impliquer, qu'on les implique aussi effectivement plus dans le processus, et puis qu'on leur laisse la chance de rencontrer leur enfant, parce que c'est sûr que si on leur laisse pas la chance de rencontrer leur enfant, ils partent sur ce déficit là, donc c'est quand même plus compliqué, ensuite de rattraper le coup. Donc pour moi, les choses devraient être comme ça, mais c'est mon avis. Et ça, pour moi aussi, c'est au père et aux coparents, de revendiquer leur droit à un congé paternité ou coparental strictement égal. Parce que nous, on peut pas être de tous les combats, les femmes. C'est ça aussi, c'est-à-dire que on peut pas se battre pour les autres en plus de nous, quoi. Et ça, souvent, je dis, il y a un mec qui s'appelle son nom, c'est Papa Patriarcat. Sur Instagram, qui a un compte, on en discutait, il est venu à Bordeaux au FIFIB où le festival était sélectionné, et il m'a dit, moi je suis en train justement de monter ça, de parce qu'effectivement c'est à nous de prendre ça en charge, c'est pas à vous de gérer ça aussi pour nous. Donc la place du coparent, déjà dans la légalité, quoi, pour le début, et puis aussi après, c'est évidemment, c'est aussi de peut-être d'élever nos garçons différemment, de leur apprendre aussi cette culture de l'intime, d'avoir le droit de parler de ça. C'est une idée, c'est Chantal Birman qui le dit souvent, mais c'est vrai que les hommes se parlent moins de l'intime, se parlent moins de leurs sentiments. C'est peut-être leur laisser la place aussi, le droit de pouvoir parler de ça, leur apprendre dès tout petit que voilà, ils ont tout à fait la, enfin voilà, que les traiter de la même manière par rapport à ça et les éduquer dans cette voie-là, parce que c'est vrai que sinon il se produit un peu un effet de sidération chez le père qui n'a pas porté l'enfant et qui se retrouve avec cette voilà, et il a échangé entre pères justement, bah c'est compliqué parce qu'ils parlent pas de cette intime, ils parlent moins de leurs sentiments, moins de leurs difficultés. Les hommes se portent aussi une charge qui est lourde quelque part, celle de voilà, c'est encore très archaïque nos sociétés finalement, je trouve, quand j'y réfléchis bien.
Oui, avec des normes de genre sont encore bien ancrées.
Très ancrées, ouais. Et se révèlent vraiment à la naissance des enfants, quoi, souvent.
Bah oui, mais en plus dans l'éducation aussi, ça ressort très facilement puisqu'on est, c'est des normes auxquelles on est habitué depuis.
Bien sûr.
Je vous ai entendu dire que vous aviez fait ce film aussi pour restituer aux femmes leur puissance confisquée.
Oui.
Qu'est-ce que vous avez voulu dire par là ?
Bah, c'est clair. C'est-à-dire que voilà, dans le film, on le voit bien. Finalement, on fait un truc quand même. D'ailleurs, souvent, c'est quand on accouche, nos compagnons ou nos compagnonnes sont très très fiers aussi de ce qu'on a pu faire, de voilà, de cette mise au monde qui est quand même voilà quelque chose d'extraordinaire. Alors ça, c'est pour les mères en particulier, mais et puis cette puissance là justement par le fait que on nous offre pas d'accompagnement réel et suffisant, s'écrase très vite et redevient toute petite. Donc voilà, j'avais envie que les femmes puissent se rendre compte que bah voilà, il y a des choses qu'on leur vole sans qu'elles s'en rendent justement compte, notamment en révélant cette histoire avec la péridurale qui est souvent plus maintenant qui sert plus à voilà aux cadences infernales, à réguler des cadences infernales qu'à vraiment soulager la douleur, même si bien sûr que la péridurale est d'abord un instrument de soulagement de la douleur, mais elle est aujourd'hui employée aussi d'une manière un peu perverse. Et puis voilà, c'était pour leur montrer justement qu'elles étaient fortes, qu'elles enduraient beaucoup de choses souvent en serrant les dents, et qu'il n'y avait pas de raison, les femmes justement étaient fortes en plein d'aspects et avaient la possibilité de changer les choses. C'était aussi de Chantal Birman, elle est extraordinaire pour ça. Elle donne une force incroyable aux gens parce que elle prouve qu'en réfléchissant, qu'en agissant réellement, en suivant ses convictions là où on est, on peut tout y arriver. Voilà, que c'est un combat, mais on peut tout y arriver. Et c'était ça aussi l'idée du film, c'est-à-dire de redonner de l'énergie aux femmes par le biais de cette femme-là et de leur dire bah voilà, vous aussi vous pouvez changer les choses parce qu'attention, il y a plein de choses qu'on vous confisque, votre accouchement, votre boulot, votre santé, c'est vrai, mentale et physique, voilà, en vous délaissant sous plein d'aspects, rendez-vous en compte et maintenant allez la récupérer et elle est là, elle est en vous. Donc voilà, c'était ça que je voulais raconter et c'est aussi pour ça que ce film ne touche pas que les mères et qu'il y ait beaucoup de jeunes, de très jeunes qui viennent et qui nous disent voilà, merci, ça me redonne de l'énergie, parce que voilà, je voulais que ce film dépasse. C'est pas qu'une histoire de mère, c'est une histoire de femme, une histoire de société, voilà. Et puis j'ai aussi voulu que les hommes s'emparent de ce film pour qu'ils voient vraiment ce que vivaient les femmes, c'est-à-dire que leurs souffrances, leurs moments de difficultés psychologiques par moment, physiques, c'est pour ça que j'ai choisi de filmer des points, enfin les agrafes, que j'ai choisi de montrer des tétons qui étaient voilà qu'on montre jamais, qui ont été un peu malmenés par des tétés, etc., pour que ils se rendent compte dans leur corps en grand, sur un grand écran, ce que ça nous fait aussi, nous, ce truc qu'on vit en grand, c'est-à-dire de leur passer le plus possible nos sensations et le choc et la turpitude dans laquelle on est, et en ça pouvoir leur dire voilà ce que l'on vit, voilà notre puissance, aidez-nous à la révéler, et voilà, j'ai cet espoir là peut-être un peu fou.
Merci beaucoup.
Bon, en tout cas, merci à vous.
Merci beaucoup.
Merci.
MDM, tout un monde.
Tout un monde.